Quelques passages nuageux, mais ça restera quand même agréable pour la Corse. Sinon, partout ailleurs, ce sont les nuages qui dominent avec un risque d'averse. Parfois, ça tournera même à l'orage et il y aura de la neige en montagne sur le massif central et le sud des Alpes ce matin et cet après-midi sur les Alpes et les Pyrénées. On peut avoir évidemment des éclaircies entre deux passages nuageux, mais voilà, ce seront des éclaircies de courte durée parce que le temps sera perturbé pour tout le monde avec des températures. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, ça remonte. On reste en dessous des moyennes de saison, mais ça remonte, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Cet après-midi, entre 12 et 19 degrés, il fera 13 à Besançon et à Brest, 14 à Caen, à Rouen et à Dijon, 15 pour Lille, Mulhouse et La Rochelle, ainsi qu'à Nantes, 16 à Paris, au Mans, à Bourges, à Clermont-Ferrand et à Cognac, 17 pour Montauban, Toulouse et Bordeaux. Il fera 18 à Perpignan et 19 à Ajaccio.
Merci beaucoup Marina, merci d'écouter RTL, il est 5h.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et le premier journal de votre vendredi, c'est avec vous, Pierre Bazin. Et à la une, ce matin, on sait à présent ce qu'il s'est passé dans la caravane de Kenji Girac quelques minutes avant le tir qui a blessé le chanteur.
De l'alcool, de la cocaïne, puis un coup de feu. Le fil de la soirée du chanteur se dessine précisément et la piste du suicide raté ou du simulacre du suicide se confirme. Le chanteur avait déjà menacé de s'ouvrir la gorge selon le procureur. Dans l'actualité, également la réponse des oppositions au discours d'Emmanuel Macron prononcé hier à la Sorbonne. Le président de la République est auteur des reculs environnementaux. Jugé hier à Strasbourg, la tête de liste écologiste aux européennes Marie Toussaint qui tente de mobiliser ses troupes. Et puis l'Élysée va changer le pain de sa table. Hier avait lieu le concours de la meilleure baguette de Paris édition 2024. Elle sort du four et Margot Munoz nous l'a fait goûter. Notre question du jour sur RTL.fr ce matin. 150 000 personnes ont changé de nom de famille en un an et demi. Y avez-vous déjà pensé vous aussi ce matin? Vous nous dites non à 90%.
Est-ce que vous êtes tenté par le changement de nom? Appelez-nous 3210.
RTL Matin.
Le déroulé de la soirée durant laquelle Kenji Girac a été retrouvé blessé par balle se dessine un peu plus précisément ce matin.
Hier, le procureur de la République de Mont-de-Marsan a donné une conférence de presse suite à l'audition du chanteur par les enquêteurs. Tout s'est donc passé dans sa caravane, Philippe de Maria, à l'occasion d'une soirée qui mêle alcool, cocaïne et disputes conjugales.
Alors le chanteur rentre en pleine nuit dans la caravane où dorment sa compagne Soraya et sa fille de 3 ans. Il a bu toute la journée, beaucoup, beaucoup trop, dira-t-il aux enquêteurs. C'était les vacances, je voulais me lâcher. Le déjeuner, le dîner, la soirée passée au casino ont été très arrosés. Il avoue même avoir consommé de la cocaïne. Il rentre, il fait du bruit, il réveille sa fille, première dispute avec Soraya. Il ressort, prend sa voiture, rejoint des jeunes de sa famille, continue à boire et il rentre à nouveau dans sa caravane. Nouvelle dispute et la Soraya lui dit qu'il va devoir partir. Selon Kenji, c'est elle qui l'aurait menacé de le quitter. Elle se réfugie dans la chambre avec sa fille. Kenji s'énerve, il fouille les placards, retrouve son arme. Selon lui, il veut lui faire peur en actionnant la culasse. Il pointe le canon contre lui, il tire. Soraya le retrouve à genoux, gémissant, grièvement blessé. Elle appelle les secours.
Alors Philippe, est-ce que ce geste c'est une tentative de suicide ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça?
Selon Kenji, il a seulement voulu faire peur à sa compagne en menaçant de se suicider. La jeune femme dira aux enquêteurs qu'il souffre d'addiction à l'alcool et lors de précédentes crises, il lui a déjà dit qu'il allait se mettre une balle. Mais le chanteur a affirmé aux enquêteurs qu'il a simulé un suicide en omettant de vérifier le chargeur qu'il croyait vide. Pour le procureur Olivier Janson, c'est la version de Kenji tout en rappelant que le suicide est tabou dans la communauté des gens du voyage. Mais en tout cas, la tentative de suicide n'est pas pénalement répréhensible. Et on se dirige vers un classement sans suite.
Le chanteur grièvement blessé avec notamment un poumon perforé dit assumer son geste et le regretter quand il pense à ses fans.
Après deux trimestres de hausse, les chiffres du chômage se stabilisent depuis le début de l'année.
Une stabilisation, voire une légère baisse de 0,1% observée depuis janvier, ce qui porte à un peu plus de 3 millions le nombre de chômeurs en France. Mais sur l'ensemble de l'année, ce chiffre est en augmentation. Derrière ces statistiques persiste un paradoxe, puisque de nombreux employeurs ont du mal de recruter. C'est le cas dans l'hôtellerie-restauration. Et de l'autre côté, les demandeurs d'emploi ne trouvent pas le travail qu'ils cherchent, Margot Le Fur.
Depuis un an, Jean, 57 ans, est au chômage, directeur de magasin pendant 30 ans, commercial, agent de sécurité. Des expériences, il en a, mais impossible de trouver un emploi.
J'habite dans la Manche, il n'y a que des postes au SMIC. C'est vraiment des emplois sans qualification, liés soit au tourisme, à la restauration ou après l'usine. Les offres d'emploi sont très, 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 très limitées. Passer du directeur de magasin à la cuisine, j'en ai pas forcément envie, quoi. Mais voilà, quoi. Malheureusement, il faut avancer.
Avancer, Jeanne n'a pas eu le choix. Depuis mi-octobre, elle cherche un travail dans l'humanitaire. Son chômage, 600 euros par mois, n'est pas suffisant. Elle vient d'accepter un poste en restauration.
C'est pas ce que je veux faire de ma vie, mais j'ai de l'expérience en restauration. J'ai postulé un taf, j'ai été prise vraiment une semaine maximum, quoi. Pour l'instant, c'est en attente de trouver autre chose, donc je sais pas combien de temps je resterai. J'ai privilégié les horaires du soir pour pouvoir candidater la journée, quoi.
D'ici la fin du mois d'août, Jeanne espère avoir trouvé un travail dans son domaine.
Et concernant l'emploi et la croissance, notamment, les agences Moody's & Fitch doivent dévoiler ce soir la note qu'elles attribuent à la France. Leurs commentaires risquent d'être salés, notamment à cause des mauvaises nouvelles budgétaires de février et l'abaissement de la croissance française d'au moins 1%. Après le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, où le président de la République a dressé un portrait alarmiste de l'Union européenne, la réponse des oppositions ne s'est pas fait attendre. La tête de liste RN aux européennes, Jordan Bardella, présentait hier son programme contre l'Europe bureaucratique et l'immigration massive. Au même moment, à Strasbourg, la tête de liste écologiste Marie Toussaint donnait un meeting pour mobiliser ses militants. Marie-Bénédicte Allaire.
Une vague verte, ce n'est pas ce que les sondages annoncent à ce stade aux écologistes, mais pour sa première campagne, Amine Kessassi préfère les ignorer.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les sondages. Ce qui m'intéresse, c'est à Marseille des mamans qui n'ont jamais été intéressées par la politique et qui aujourd'hui collent des affiches Amine Kessassi, Marie Toussaint, tous les soirs à Marseille. C'est ça qui est intéressant.
Les anciens, comme Éric Piolle, se veulent rassurants.
5 jours avant les élections en 2014, 5 jours avant, nous étions donnés 10 points derrière la liste socialiste. Nous avons fini 4 points devant.
La petite salle est pleine. À défaut de dynamique, les militants sont enthousiastes. Et Marie Toussaint s'accroche.
En 2019, on était derrière Yannick Jadot, qui a mené une campagne en tenant bon, hein, tout du long, même quand on lui disait à lui aussi que c'était dur. Et c'est vrai que cette fois, c'est mon tour. C'est à moi de tenir bon maintenant pour tout le monde.
Et la sénatrice Mélanie Vogel de philosopher. La beauté de la démocratie, c'est que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais perdu.
Un reportage à Strasbourg de Marie-Bénédicte Allaire. Et puis c'était aussi l'un des objets du discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, la collaboration européenne en matière de défense franchit un pas aujourd'hui avec la signature d'un projet de char franco-allemand. Un char qui devrait, d'ici 2040, remplacer les chars Leclerc et Léopard. Une avancée qui se concrétise sur fond de guerre en Ukraine. Elle aura sa place sur les tables de l'Élysée. La baguette du boulanger Xavier Netri dans le 11e arrondissement de Paris remporte l'édition 2024 de la meilleure baguette de la capitale. Un concours très sérieux avec des règles très précises. Une taille comprise entre 50 et 55 cm, un poids inférieur à 270 grammes. Et cette baguette qui trônera sur la table du président de la République pendant un an, eh bien vous avez pu la goûter, Margot Munoz.
Bonsoir, je vais vous prendre la meilleure baguette de Paris.
La nouvelle s'est répandue vite dans le quartier. Devant la porte, une longue file d'attente. Certains découvrent cette boulangerie pour la première fois, comme Pierre qui a pris le métro pour goûter la fameuse baguette.
J'ai découvert sur Internet que la meilleure baguette de Paris avait été attribuée aujourd'hui. Je suis venu essayer.
Vous pouvez faire une dégustation en direct ?
Alors, croquant, moelleux. Pas mal.
Il y a aussi les habitués. Paolo achète sa tradition ici, chaque jour, 1,20€, et il n'est jamais déçu.
Il est toujours bien craquante, il est toujours parfaite.
Et la baguette, vous pensez que c'est la meilleure de Paris ?
Je pense bien que oui.
Exceptionnellement, derrière la caisse, Xavier, le boulanger, serre les clients. Il a le sourire jusqu'aux oreilles.
Fier de moi, parce que ça fait longtemps que je voulais ce titre.
C'est un aboutissement après des heures de travail.
Ah oui, totalement, des heures et des heures de travail. De l'acharnement un petit peu sur quelques baguettes, parce que c'était un peu compliqué. Entre le temps, l'humidité, c'est tout un travail. Ouais.
La baguette de Xavier est maintenant la plus réputée de Paris. Alors pour être sûr d'en avoir assez ce matin, il a passé toute la nuit dans son fournil.
Un reportage croustillant et délicieux signé Margot Munoz.
On a envie de goûter là. Après la reine des baguettes, la reine des rappeuses, c'est un sacre supplémentaire pour Aya Nakamura.
Désignée artiste féminine de l'année hier soir au théâtre du Châtelet à Paris, elle remporte la Flamme, trophée qui récompense le meilleur du rap et du R&B. Cette victoire là, c'est pour toutes les Renois, on vient de loin.
C'est le titre Fly. Moi, je suis resté sur Jaja, hein, le tube qu'il a fait connaître. Un peu old school.
Et un peu old school déjà.
Mais qu'est-ce que. Pierre Bazin, c'est quoi ça?
Et que Pierre, faut pas faire ça, hein. Pas le premier jour en tous les cas. Je pense qu'il est à l'aise.
Ouais, il est à l'aise. Je me mets à l'aise. Côté masculin, c'est le rappeur Gazo qui l'emporte. Et on écoute son titre d'ail.
Alors que je m'aille. Elle veut savoir, je suis dans quel bail.
Ça vous plaît, Marina?
Oui, puis c'est pas old school, ça va.
Gazo et Aya Nakamura sacrés hier soir aux flammes. Merci beaucoup, Pierre Bazin. 5h20, on vous en parle. Une belle histoire ce matin.
Direction la Normandie, où vont cohabiter des migrants, des personnes en difficulté et puis des gens seuls, des personnes âgées. Et
vos messages, Marina.
Alors, nous avons Isabelle, pour qui c'est un jour spécial. Isabelle de Wassel, en Seine-Maritime, il me semble. Spécial parce que c'est l'anniversaire de son rayon de soleil, son petit-fils Eden qui a 5 ans, on lui fait de gros bisous Isabelle.
Gros bisous à Eden aussi.
Ouais. David est à Toulouse, c'est humide, il souhaite une bonne route aux collègues routiers, il fait 9 degrés et d'ailleurs en parlant des routiers, il y a Jean-Michel des transports Dorier qui se languissait de rédiger ce message, eh bien il est sur la route des vacances. Voilà, il est content de nous écrire cela. Direction l'Andalousie. Pour l'instant, il est à Valence où il fait 12 degrés en Espagne. Je dis Valence en Espagne. On lui souhaite de très belles vacances. Et puis, des messages aussi d'auditeurs sur... alors attendez, je les retrouve.
Alors sinon, j'en donne un en attendant. Oui, c'est... je retrouve son prénom. Anthony, par SMS. On va y arriver. Il nous rappelle que c'est l'anniversaire de Giorgio Moroder aujourd'hui. 84 ans, est-ce que vous pouvez passer The Chase? Nous demande-t-il, bah c'est fait.
Trop le scoud.
Décidément.
Pierre, ça y est, vous êtes connecté. Bon, ça y est, j'ai retrouvé mes messages. Là aussi, c'est pour de la musique. Alors là, il y en a qui ont été contents d'entendre Gabi au Gabi. Il y a Nat qui nous écrit « Oh yeah, Gabi, merci la team !» avec des cœurs et tout ça. Bruno nous dit « Super choix ce matin à la Bachung. Merci la fine équipe, la petite équipe.
Bon, » petite mais costaude, hein.
On a pas dit sommaire.
Il est 5h11 sur RTL.
J'ai perdu, Klaus.
Ah, le corps à corps.
On l'a déjà fait, Germaine.
Il reste un petit coup à mettre du côté de Germaine. Vous avez tout donné.
Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
Alex Vizorek et sa visioconférence tous les soirs à 18h37. Il revenait hier soir sur le match de foot d'Emmanuel Macron, à plaisir.
Oui, match remporté par son équipe, 5-3. Le président avait notamment dans son équipe Didier Deschamps, Didier Drogba, Christian Carambeu ou encore Eden Hazard. Et donc, en football, il ne gère pas comme en politique, puisqu'en football, il s'entoure des meilleurs. Et ça, c'est malin. Et il a même marqué un but. Bon, sur penalty, et je sais pas si vous avez vu les images, mais...
Si, bah oui.
Ouais, je pense que le gardien avait moins peur du tir de Macron que du futur contrôle fiscal s'il arrêtait de ballon, et c'était plutôt malin.
C'était pour une bonne œuvre.
Oui, évidemment. L'opération pièce jaune pour la fondation des hôpitaux. Tiens. Alors même que ce même Macron a demandé au gouvernement de réduire le budget des hôpitaux. Donc ce pénalty, est-ce que c'est pas un petit peu un but contre son camp? Humour engagé.
C'est une façon de voir.
Alex Vizorek tous les soirs sur RTL.
RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
Et puisqu'on est bientôt en week-end, c'est le jour pour écouter The Weeknd. Une chanson, une histoire avec cette chanson de 2019, Blinding Lights. Cette chanson a été produite par un musicien suédois, Max Martin. Ce nom ne vous dit rien, sans doute, mais il est derrière ça. Ce tube de Britney Spears, où il est derrière ça aussi.
Un petit peu doué quand même.
Voilà, faiseur de tube, Max Martin va suggérer à The Weeknd de reprendre les recettes des années 80 sur le modèle très précis de cette chanson de AA. Cette chanson ressemble, c'était pas le bon extrait, c'est pas grave, elle ressemble à la chanson de The Weeknd qu'on va écouter maintenant, Blinding Lights sur RTL.
can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby,
Weekend en 2019, calqué sur ce titre des années 80 du groupe A.
Ah oui, si, c'est vrai.
Bah si, y a un petit
oui,
air.
Y a quelque chose, oui.
Pierre Bazin me dit, mais tu trouves que ça ressemble
ouais. Je pense que Pierre Bazin vous a dans le nez.
Ouais, je pense que, je sais pas, c'est mal parti cette histoire. Il est 5h17.
Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une tragédie qui a enfanté un des tableaux les plus célèbres du monde, Guernica.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À tout à l'heure.
On en parle.
La complémentaire santé solidaire proposée par l'assurance maladie vous aide à payer vos dépenses de santé. On en parle tout à l'heure avec Henri qui bénéficie de ce droit.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Avec un pas de plus vers les JO de Paris aujourd'hui, puisque la flamme olympique va être confiée par la Grèce à la France. Et ensuite, elle embarquera pour une traversée de 12 jours en mer, destination Marseille. Ce sera à bord du majestueux 3 mâts, le Belém. Notre correspondante en Grèce a pu assister aux répétitions de cette cérémonie de passation de la flamme olympique. Invitée surprise, Nana Mouskouri, 90 ans cette année.
La France est mon deuxième pays. Je suis très très émue.
On y revient dans le journal de 5h30.
RTL Matin.
Alors que 150 000 personnes ont changé de nom de famille en un an et demi, d'après l'INSEE, est-ce que vous êtes tenté par le changement de nom? Vous savez que la loi a changé depuis juillet 2022. C'est plus facile aujourd'hui de changer de patronyme. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes tenté? On en parle ensemble au 3210.
On va en parler avec Elisabeth de Pontoise dans les Yvelines. Elle va nous raconter une histoire un petit peu incroyable.
Alors, Pontoise, c'est dans le Val d'Oise.
Ah, excusez-moi, je me suis trompée.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour. J'habite pas la région parisienne, je ne sais pas.
Vous avez une histoire très particulière. Racontez-nous.
Eh ben, la seule personne que j'ai rencontrée dans ma vie maintenant, j'ai bientôt 68 ans.
Oui.
C'est la sœur de mon mari, qui est née le même jour, la même année, le même mois que moi, et qui porte le même prénom.
Et le même nom?
Et le même nom, puisque je me suis mariée avec son frère.
Voilà. Donc le même nom, le même prénom, la même date de naissance, ça fait un peu peur.
Ça fait un peu peur, mais bon, heureusement, nous n'habitons pas dans la même région. Elle a quitté la région de Pontoise, et donc ça pose pas de problème.
Attendez, vous n'êtes pas née dans la même ville quand même?
Non, moi je suis née à Marseille.
Ah, c'est ce qui vous distingue?
Voilà.
Bon, donc, le changement de nom pour vous, c'est pas un sujet?
Ah, mais je veux pas du tout changer de nom, mais en plus, vous savez que... Ça pose des problèmes quand, si par exemple dans la concession familiale, vous voulez être enterré dans la concession familiale et que vous êtes divorcé, les collatéraux peuvent refuser de vous accepter dans la concession familiale.
Ah non.
Il y a le code des communes, c'est pas rien de changer.
Pourquoi vous voulez divorcer? C'est ce que vous nous annoncez, non?
Non, pas du tout. Moi, je vais fêter mes 50 ans de mariage.
Et alors, donc, ça vous pose des difficultés au quotidien? Parfois, l'administration se trompe. Quelles conséquences ça peut avoir, ça?
Eh bien, ça, par exemple, quand vous allez à la banque et que vous êtes dans la même banque, eh bien, on pourrait vous donner les relevés de compte de l'autre personne.
Et on ne l'a jamais fait?
Oui. Eh bien, on ne l'a jamais fait parce que je l'informe avant, mais de l'autre côté, je ne sais pas.
Et alors comment à chaque fois on vous reçoit, on est sceptique par rapport à ça? Parce que c'est quand même très original.
Eh bien on vous demande votre carte d'identité, votre numéro de compte, voilà.
Oui. Vous ne ressemblez pas à votre belle-sœur quand même?
Physiquement non, et non. C'est mes enfants qui pourraient ressembler aux siens, puisque... On a quand même la même lignée.
Oui, d'accord. Et alors, votre mari...
Il n'y a aucune excuse pour oublier les dates d'anniversaire.
Non.
Et de sa sœur et de vous. Hein.
Et ses beaux-frères non plus. Ses frères non plus.
Est-ce que dans le choix de femme de votre mari, il y a quelque chose d'inconscient qui s'est joué là?
C'est horrible.
Oui, non, mais je ne sais pas, mais je pose la question.
Eh bien, belle-maman voulait être religieuse.
Oui.
Elle a rencontré mon beau-père, elle a décidé de se marier, et elle a dit, puisque je me marie, j'aurai 12 enfants. Et donc, ma belle-sœur est arrivée la cinquième, comme moi d'ailleurs.
Oui.
Moi, je suis la cinquième fille, mais elle, c'est la première fille de 8 enfants.
Ouh là là, c'est très compliqué.
Elle a gardé son nom,
donc,
elle s'est mariée.
Et elle a dit, quand elle a eu le cinquième enfant, que j'étais enfin une fille... Elle a dit, elle voulait l'appeler Anne-Marie, mais elle a dit, comme dans la tradition, c'était qu'il y ait toujours une Élisabeth, elle a dit, appelons-la Élisabeth, au cas où il n'y en aurait pas d'autre.
Et votre belle-sœur a conservé son nom ou elle s'est mariée?
Elle s'est mariée.
Donc vous n'avez plus le même nom?
Ah ben elle a son nom de jeune fille et moi j'ai mon nom d'épouse.
Oui. Bon, mais en
et
tout cas...
vous savez, le 15 septembre, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés le 15 septembre, puisque nous sommes conçus... au moment de Noël.
D'accord. Bon, on saura tout de votre vie, Elisabeth. Il nous manque les relevés de compte, mais
voilà,
sinon on a quasiment tout.
Nos parents ont conçu le même jour.
Merci beaucoup.
À 800 kilomètres de différence.
Merci beaucoup, Elisabeth. Et on embrasse donc votre belle-sœur, Elisabeth.
L'hiver 55 était très froid.
D'accord.
Bon, on se réchauffait comme on pouvait. On a compris, Elisabeth.
Merci beaucoup, Elisabeth. Très bonne journée.
Bonne journée à vous.
À bientôt. Il est 5h23 sur RTL.
RTL Matin, avec Jérôme Florin, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.
Tout à l'heure, dans l'heure du crime, l'affaire Audrey Joanet, jeune, belle, retrouvée morte dans son appartement, victime d'un maniaque sexuel. Le concierge de la résidence, un violeur récidiviste qui s'est inspiré d'une série télé pour commettre son meurtre. Qui a tué Audrey Joanet? L'heure du crime, tout à l'heure, 14h30 sur RTL.
RTL Matin, on vous en parle.
Pierre Bazin, vous nous parlez ce matin d'une initiative qui propose de lutter contre l'isolement des personnes âgées et handicapées, contre le mal logement ou encore le manque de structures d'accueil pour migrants.
Oui, autant de questions qui font l'actualité et que deux sœurs normandes ont décidé de réunir dans un seul et même endroit. Imaginez Jérôme, Marina, une grande coloc où cohabitent ceux qui se sentent seuls, ceux qui viennent d'arriver en France, ceux qui n'ont pas d'argent ou vivent dans la rue. Eh bien, cette grande coloc
Choc Solidaire, c'est l'idée de deux sœurs, Clémence et Marine Dugor, 32 et 26 ans. Elles ont misé sur le fait qu'une problématique était peut-être la solution d'une autre. Cela se passe en Normandie, à Elbeuf. Et Clémence, la grande sœur, revient sur cette idée qui a germé dans la tête, dans leur tête pendant le Covid.
On vise vraiment deux types de personnes, deux types d'habitants. Donc d'un côté, les personnes en situation d'isolement, justement pour sortir de cet isolement. Le but, c'est de recréer un lieu de vie dans lequel ils puissent partager, échanger, découvrir d'autres personnes, aussi s'ouvrir vers l'extérieur. Et d'un autre côté, pour les personnes en situation précaire, avoir un logement qui soit accessible financièrement pour que elles retrouvent du travail, retrouvent un logement et qu'ensuite, elles puissent avoir un logement indépendant si elles le souhaitent.
Alors ça, c'est l'idée de base. Et pour cela, les deux jeunes femmes plaquent tout. À 32 ans, Clémence quitte son travail de juriste. Sa sœur fait pareil et elles embarquent leurs parents dans l'aventure. Tous ensemble, ils rachètent une ancienne école à un grand immeuble pour créer cette coloc géante et intergénérationnelle.
On a 13 chambres, donc 6 chambres qui sont équipées personnes à mobilité réduite et 7 chambres qui sont un peu plus petites. Plutôt pour les personnes en situation de précarité. Donc là, le but, c'est plutôt d'être un tremplin. Contrairement aux 6 autres chambres, où là, le but, c'est vraiment que les personnes restent tout le temps qu'elles souhaitent.
À cela s'ajoutent les espaces communs, les cuisines évidemment, mais aussi des salons, des salles de jeux, un jardin partagé, tout pour créer de la vie dans cette grande coloc.
En plus, cette initiative est plutôt d'actualité, parce que depuis plusieurs semaines, on entend des maires de France, alors que ce soit Orléans, Strasbourg ou Angers, qui dénoncent le déplacement de migrants catimini, je mets ça entre guillemets, pour faire place nette dans Paris pour les Jeux.
Oui, ce qui a mis en avant le manque d'infrastructures d'accueil et la difficulté d'arriver dans une nouvelle ville avec d'éventuelles craintes de la population. Alors ce projet, les deux sœurs ont à cœur de montrer qu'une cohabitation est largement possible.
Donc on va être ouvert aux migrants, on va être ouvert aux personnes âgées, aux personnes en situation d'handicap, aux jeunes, aux personnes plus âgées. Le but, c'est pas de recréer, par exemple, des foyers. C'est vraiment de créer un lieu dans lequel tout le monde vit en harmonie, où il y a une mixité des publics. L'enjeu, c'est de montrer que une personne âgée peut très bien cohabiter avec un migrant. On trouve qu'il y a parfois une stigmatisation de certaines personnes et on essaye d'agir là-dessus.
Et donc à la clé, vous l'avez compris, il y a un seul message pour tout le monde.
Ah oui, évidemment. Faudra voir comment ça se passe, cette coloc. Ça commence quand ?
Ça commence en septembre. L'ouverture est prévue en septembre. Et l'association s'appelle Insert Génération.
Eh bien, c'est une belle initiative qu'il faudra suivre sur RTL. Merci beaucoup, Pierre. Pierre Bazin.
RTL.
Un extrait de vos grosses têtes, c'est tous les jours, 15h30, 18h sur RTL avec les fake news.
Christophe Beaugrand.
Duralex en redressement judiciaire, le PDG belge a déclaré « Avec le recul, faire des verres incassables, c'était vraiment une connerie puisqu'on n'en rachète jamais.
» Valérie Mérès.
Emploi fictif. La cour d'appel a confirmé hier la culpabilité de François Fillon. Pénélope Fillon a réagi au verdict en déclarant « Je ne comprends pas, pourtant je n'ai rien fait
!» Olivier Bellamy.
Alors, règlement de compte. N'ayant pas apprécié comment il s'était parlé tout seul, Kenji Girac a voulu se faire justice lui-même.
Florian Gazan.
2 millions de bouteilles de Perrier détruites après la découverte de matières fécales. Le type qui a pété dans l'eau pour faire les bulles avait une gastro, il court toujours.
C'est dégueulasse. Vos grosses têtes, 15h30, 18h, tous les jours sur RTL. C'est l'heure de jouer, chers auditeurs. Nous vous faisons gagner aujourd'hui un séjour de 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Relais Château 5 étoiles, Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien avec des soins d'hydrothérapie. Pour tout cela, il faut, pour gagner, pour l'espérer et l'emporter, il faut répondre à la question suivante. Il faut être le plus rapide au standard pour nous dire quel est le nom du tube qui a fait connaître Aya Nakamura, qui a été sacré hier soir aux flammes, les victoires du rap. Quel est le nom du tube qui a fait connaître Aya Nakamura? Vous répondez, première bonne réponse, standard.
Kelly vous attend.
Bonne chance à tous. Marina, comment dire
les températures remontent.
Oui, d'accord, non, mais bon, le ciel est toujours gris, pluvieux. Et voilà.
Bah oui,
bon,
ça franchement, alors, il est perturbé. Hein.
Effectivement, commençons par la bonne nouvelle, donc les températures qui remontent.
Bon, ça vous met en joie, je vois ça. En tous les cas, ça fait plaisir aux auditeurs de constater qu'il fait beaucoup moins frais ce matin. C'est vrai que les températures sont en hausse, il n'y a pas de gelée. Et puis cet après-midi, ce sera la même chose, elles seront en hausse. Mais bon, c'est vrai que c'est en dessous des moyennes de saison. Hein. Comptez 12 à 19 degrés cet après-midi, 15 à Lille, 16 à Paris et à Marseille et 17 degrés à Toulouse. Du côté du ciel, donc des nuages, des averses, du vent et même pour certains des orages. C'est ce temps agité qui va concerner tout le monde à un moment ou l'autre de la journée, avec même de la neige en montagne. C'est le cas en ce moment sur les Alpes. On aura aussi quelques flocons vers le Massif central. Et puis cet après-midi, ce seront les Pyrénées qui seront touchées. Il y a juste la Corse qui va peut-être échapper. Alors ce matin, vous aurez du beau temps. Il y aura quelques nuages cet après-midi, mais ce ne sera pas désagréable non plus. Sinon, partout ailleurs, prévoyez le parapluie parce qu'à un moment ou l'autre de la journée, vous en aurez besoin.
Merci beaucoup Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h30.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et avec Hortense Crépin pour le journal. Bonjour Hortense.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
Après 10 jours à travers la Grèce, direction la France pour la flamme olympique.
La cérémonie de passation de la torche a lieu ce soir avant qu'elle ne prenne la route demain vers Marseille. L'épilogue de l'affaire Kenji Girac, ce n'était pas un accident mais une simulation de suicide. Et puis show must go on, les ailes du Moulin Rouge sont tombées. Mais le cabaret parisien a bien accueilli son public hier soir.
RTL autour du monde.
Et direction donc la Grèce ce matin. La flamme olympique va quitter le pays demain pour rejoindre la France à 91 jours désormais du coup d'envoi des Jeux de Paris. La passation de la torche olympique aura lieu ce soir à 17h30 au stade panathéanique d'Athènes. Alexia Kefalas, vous êtes la correspondante de RTL sur place où l'impatience grandit à 12h maintenant de la cérémonie.
Oui, c'est l'événement et ces fans qui ont fait le déplacement pour la voir étaient nombreux comme Auguste Lyonnais de 28 ans.
C'est un symbole, c'est les Jeux Olympiques de Paris, c'est la dernière fois peut-être où je vais l'avoir chanté, c'est 90 ans, c'est extraordinaire.
Même Nikos Aliagas, le maître de cérémonie, est saisi.
Je suis super ému d'être ici, évidemment, je suis touché parce que c'est la France et la Grèce qui se retrouvent.
Et Nana Mouskouri, sensible à cette effervescence, se confie en exclusivité à RTL.
Il y a autre chose qui est extraordinaire, c'est que la France est mon deuxième pays. Alors je suis là pour la Grèce, parce qu'elle donne la flamme, et la France qui la reçoit. Donc je suis en même temps pour les deux, et mon émotion, ma fierté, j'ai tellement de respect, et puis... Je suis très ému.
La cérémonie devrait durer une heure, puis la flamme olympique passera la nuit dans l'ambassade de France à Athènes.
RTL autour du monde avec Alexia Kefalas, correspondante de RTL en Grèce. La flamme partira ensuite demain à bord du Belém, ce mythique trois mâts. Et elle arrivera le 8 mai à Marseille où un feu d'artifice sera tiré ce soir à l'occasion de cette passation de la torche olympique.
5h32 sur RTL, on sait désormais ce qui s'est passé dans la caravane de Kenji Girac lundi matin.
Exit la version du tir accidentel, le chanteur avait bu et consommé de la cocaïne. Il a en fait voulu simuler un suicide avec son arme pour faire peur à sa compagne après une dispute. Mais il a oublié que le chargeur était plein avant de se tirer dessus. Une scène racontée en conférence de presse hier par le procureur Olivier Janson au micro RTL de Philippe de Maria.
Je tenais le pistolet avec ma main droite et j'ai orienté le canon vers ma poitrine en me tenant avec ma main gauche pour faciliter le mouvement. Puis j'ai tiré le chien en arrière, j'ai basculé mon torse vers l'avant pour m'aider à tirer le chien. En tenant l'arme, j'ai un peu basculé vers l'avant. Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas. Il précisera par la suite, j'étais sous à un point de ne pas savoir trop quoi faire. J'ai perdu le contrôle, mais j'étais en état de comprendre ce que me disait Soraya, qu'il qualifie au passage de femme de sa vie.
L'affaire devrait donc être classée sans suite. Les managers du chanteur disent regretter que le procureur ait dévoilé l'intimité privée de Kenji Girac. Alors face à ces révélations, comment réagissent les fans du chanteur? Vous les avez interrogés au festival du Printemps de Bourges, Steven Bellery.
Acte d'amour désespéré, coup de folie, ces mamans aimeraient rassurer leurs enfants.
Leur dire si un jour on pourra aller le revoir en concert, savoir si on aura une réponse aux questions qu'on se pose, c'est pas gagné et voilà.
Mais moi j'espère bien le voir en concert un jour.
Leurs filles suivent le feuilleton.
S'il a essayé de chuter, c'est pas de sa faute.
C'est sûrement un accident, donc c'est pas forcément lui qui l'a voulu.
Enfin, je sais pas s'il serait capable de rechanter un jour.
Il aurait pu y rester vraiment, genre pas revenir à la vie, donc à continuer à l'écouter.
Après la conférence du procureur, certaines familles sont sidérées.
Ça a choqué, oui, tout à fait. Après, les enfants se sont demandé ce qui s'était passé.
On s'y attendait pas. On s'attend pas simple d'une star, en fait.
L'image du chanteur est surtout écornée chez les jeunes adultes qui ont grandi avec Kenji.
Ça descend le personnage, je pensais que c'était un mec clean, quoi.
Ça me faisait tout bizarre parce qu'en 5ème, je dansais sur cette chanson et là, les news que je vois passer sur lui, c'est qu'il a été blessé à l'arme à feu.
J'ai essayé de le rapper sa mort.
Non, mais un cocaïnomane. En plus, il s'est fait une tentative de suicide, c'est triste, hein. Par rapport à son image, c'est clair qu'elle va en prendre un coup, hein. Mais merde, quoi.
En étant une ancienne fan, j'espère qu'il sortira quand même ses addictions et ça. Et...
Franchement, il a dû toucher très bas la terre, franchement, pour arriver à ce niveau-là.
D'anciens fans qui espèrent une renaissance.
J'espère que sa remontada sera très grande.
Ouais, après, c'est un être humain.
Steven Bellery du service culture de RTL. Alors que le déficit a dépassé l'an dernier les prévisions du gouvernement avec 5,5% du PIB, la note de la France va-t-elle être dégradée? Deux agences rendent ce soir leur verdict sur la santé des finances du pays et donc sur sa capacité à rembourser ses dettes.
Et quelles conséquences ça aurait de se faire dégrader notre note? Nous en parlerons avec Martial You tout à l'heure à 7h moins quart dans la tablée du petit matin. Avant cela, l'État va voler à la rescousse des églises de village.
7 mois après avoir annoncé une collecte nationale pour aider les communes de moins de 10 000 habitants à préserver leurs édifices religieux. La Fondation du patrimoine dévoile ce matin la liste des 100 premiers sites concernés. 61% ne sont pas protégés aux monuments historiques, comme l'église de Cachin, 230 habitants dans les Landes, et où l'aide annoncée est très, très attendue, Denis Grandjou.
Oui, la petite église en pierre, au toit de tuiles rouges, surmontée d'un clocher en ardoise, est située dans une clairière. Marie-Claire Cazot habite la maison juste en face de l'église. Elle sonne les cloches ici depuis 58 ans et elle nous offre une visite guidée. D'abord, il faut ouvrir une porte en bois peinte en bleu.
Eh bien, on y va. J'ouvre la porte. Eh bien, là, c'est notre petite chapelle, toute simple, avec le carrelage, un ancien carrelage. Moi, j'ai été baptisée ici.
Vous avez été baptisée il y a combien de temps ?
78 ans. Je suis toute jeune.
Une première tranche de travaux a été réalisée pour un montant de 40 000 euros, mais il reste encore beaucoup à faire. Marie-Rose Langlade, maire de Cachin.
Tout ce qui est la charpente, on a la sacristie. Après, il y a le clocher. Il y a une petite fuite d'eau en haut du dôme.
Et en attendant d'obtenir une dotation financière qui pourrait permettre de couvrir les 120 000 euros encore nécessaires à la rénovation de la petite église, Marie-Claire n'hésite pas sur RTL à sonner les cloches.
J'espère que ça apporte la chance à notre petite église si charmante.
C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas aux habitants de Cachin. Le reportage de Denis Grandjou dans les Landes pour RTL. Des échanges de tirs cette nuit entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais. Une délégation égyptienne est par ailleurs attendue aujourd'hui dans l'État hébreu pour faire avancer les pourparlers pour une trêve et la libération d'otages à Gaza. Gaza où les États-Unis ont débuté la construction d'une jetée pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire. Sur place, 60% des familles ne consomment qu'un repas par jour. Un discours sous forme de mise en garde, Emmanuel Macron a présenté hier sa vision pour l'avenir de l'Europe qu'il estime en danger de mort. Pour assurer la défense des 27, il suggère notamment la création d'un bouclier antimissile inspiré du dôme de fer israélien.
À Paris, les ailes du Moulin Rouge n'ont pas tourné cette nuit, mais le cabaret a bien reçu son public hier soir.
Les quatre pièces en aluminium sont tombées sans faire de blessés, mais la direction assure qu'il ne s'agit pas d'un acte malveillant. Son directeur général était l'invité hier de Julien Cellier dans RTL. Bonsoir.
C'est a priori pas les ailes qui ont elles-mêmes qui se sont abîmées puisque le morceau est tombé d'un seul et même bloc, donc c'est plutôt on pense plutôt à l'axe axial qui supporte l'hélice elle-même.
Le Moulin Rouge, c'est 135 ans d'histoire, 600 000 spectateurs par an, un film à la BO culte. Quand on est un lieu aussi légendaire, l'objectif c'est quoi aujourd'hui? C'est reconstruire au plus vite. Maintenant, reposer ses ailes le plus rapidement possible.
C'est, vous l'avez dit, c'est 135 ans d'histoire. Donc, c'est 135 ans de péripéties. C'est un nouvel événement qui arrive dans l'histoire du Moulin, évidemment, qui aurait pu être beaucoup plus dramatique. Je minimise pas du tout l'événement, mais c'est quelque chose qui vient s'ajouter aux 135 ans d'histoire et dont on parlera d'une manière plus anecdotique dans le futur.
Vous avez un objectif quand même en termes de date pour la reconstruction? Je sais pas, par exemple, les JO. D'ailleurs, il y a la flamme qui va venir au Moulin Rouge aussi.
Alors, voilà, oui, il va se passer quelque chose cet été. À Paris, donc oui, non, évidemment, l'objectif c'est d'être au rendez-vous pour les JO.
Jean-Victor Clérico, le directeur général du Moulin Rouge.
135 ans d'histoire, hein, le Moulin Rouge. Pourquoi une tragédie est à l'origine du Moulin Rouge? Et ben on verra ça avec Florian Gazan tout à l'heure dans la tablée du Petit Matin. Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Vos messages, Marina.
Alors, nous avons du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, Denis, qui est sur l'aire des vignobles. C'est à Tracy-sur-Loire, dans la Nièvre. Retour au dépôt, récupérer son campion, nous dit-il. Il y fait 6 degrés. On vous embrasse et on vous souhaite une bonne route, Denis, dans votre camion. Lionel, lui, est au Puy-en-Velay. Il y a de la pluie et une température de 6 degrés. Bernard est à Lille, le ciel y est couvert, la température y est de 8 degrés. Quelques gouttes à Bessan dans le Pas-de-Calais, c'est notre fidèle Joseph qui dit « on ressent un petit redout ». Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous dire que les températures sont en hausse et que ça vous fait du bien. C'est Joseph qui nous dit « il fait moins frais pourvu que ça dure ». Ça va durer sur le côté douceur, enfin douceur, retour à des normales.
5h39.
RTL. Le podcast du jour.
Et je vous propose aujourd'hui un extrait de bonus track à l'occasion de la sortie en salle. C'était mercredi de Back to Black, le biopic consacré à Amy Winehouse. Éric Jean-Jean revient sur le destin tragique de cette chanteuse à la voix d'or, décédée à seulement 27 ans.
Mais oui, parce que Amy, look pin-up destroy, chignon choucroute, eyeliner noir, tatouage, 23 ans. Mais très grosse culture musicale. Et puis la trahison, hein, c'est précisément ce qu'elle vient de vivre avec son mari. Mais retour à la passion d'Amy Winehouse pour la musique, en particulier le jazz. En fait, Amy, cet amour, elle le tient de son père, Mitch, installateur de fenêtres et crooner à ses heures perdues. À la maison, il chante du Sinatra et très vite, Amy se découvre un talent, elle aussi, pour le chant. Mais à 9 ans, ses parents divorcent et Amy va le vivre comme une véritable déchirure. À l'adolescence, elle tombe dans l'anorexie et la dépression, une période sombre dont elle ne sortira jamais vraiment.
Pour retrouver ce podcast en intégralité, vous allez sur rtl.fr, vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone et dans la barre de recherche, vous tapez bonus track pour retrouver la voix d'Éric Jean-Jean. On va entendre le bruit des oiseaux avec notre invité dans un instant, on va se balader dans la baie de Somme.
RTL. On en parle.
La complémentaire santé solidaire proposée par l'assurance maladie vous aide à payer vos dépenses de santé. On en parle avec Henri, retraité depuis 3 ans. Bonjour Henri.
Bonjour.
Alors depuis quand bénéficiez-vous de la complémentaire santé solidaire ?
Ça fait quelques mois déjà, suite à une discussion avec un ancien collègue à la retraite, lui aussi, et qui en bénéficie. Voilà, il m'a conseillé d'évaluer mes droits et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais éligible.
Et ça a changé quoi pour vous ?
Je n'ai plus rien à payer pour mes frais de santé, ni mes consultations chez les spécialistes ou même quand je vais à l'hôpital. Et aujourd'hui, j'ai tout ça pour moins d'€1 par jour.
Ça c'est très bien, merci beaucoup.
On en parle. Pour vérifier votre droit à la complémentaire santé solidaire, rendez-vous sur amélie.fr. Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew. Véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun. La radio de la collection Georges Lang.
Le rock dans tous ses états, sur la radio de la collection George Lang.
Retrouvez la radio de la collection George Lang sur le site rtl.fr ou l'application RTL. C'est simple et c'est gratuit.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Dans l'actualité à retenir, Kenji Girac qui a voulu simuler un suicide pour empêcher sa femme de le quitter. C'est ce que dit le procureur de Mont-de-Marsan qui a donc écarté la piste de l'accident brandi par le chanteur. Des analyses ont aussi montré qu'il était alcoolisé et sous cocaïne. Soraya, la femme de Kenji Girac, a parlé de cette dérive. Olivier Janson, le procureur de Mont-de-Marsan.
Elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi. Elle a été interrogée sur l'éventuelle consommation de stupéfiants de la part de Kenji Girac. Elle évoque effectivement une consommation de cocaïne à raison d'une à deux fois par semaine.
Et on y revient dans le journal de 6 heures.
RTL Matin.
Ça se passe chez vous.
Comme tous les vendredis, on vous donne des idées de sortie pour votre week-end et on vous emmène aujourd'hui en Baie-de-Somme pour le Festival de l'Oiseau et de la Nature. C'est jusqu'à dimanche. Bonjour Marie-Agnès Bosch.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes la coordinatrice de ce festival à Abbeville. Merci de vous être levée tôt pour nous. Il faut d'abord rappeler, pour les gens qui ne connaîtraient pas, qu'on est là sur l'une des plus belles baies au monde, hein.
Exactement. La baie de Somme fait partie des plus belles baies du monde. C'est aussi, elle est aussi classée Grand Site de France. On a un parc naturel régional depuis quelques années et on a une nature qui est splendide et on aime la partager avec les festivaliers qui viennent à l'occasion du festival. Et on leur propose pendant cette semaine de festival à peu près 400 sorties nature qui permettent de découvrir toute la diversité des paysages que l'on peut avoir en baie de Somme, parce qu'on a effectivement la baie, mais on a aussi des falaises, il y a un massif dunaire, il y a des marais, on a un beau massif forestier. Et donc, au travers de ces sorties, on découvre avec des guides passionnants et passionnés cette nature sauvage que l'on propose en baie de Somme.
Vous pouvez nous donner quelques exemples de sorties pour le week-end, par exemple?
Oui, par exemple, on a une sortie qui s'appelle « À l'écoute des oiseaux », que l'on fait avec un guide, c'est à peu près une douzaine de personnes, avec une parabole. Ils captent les chants d'oiseaux. On a un casque infrarouge qui permet d'amplifier en fait le chant d'oiseaux. Donc, on entend vraiment très, très bien les chants d'oiseaux. Et l'idée de la sortie, c'est d'apprendre à reconnaître les chants d'oiseaux en pleine nature.
Oui. Et pour participer à ça, il faut s'inscrire?
Il faut s'inscrire, effectivement. C'est préférable. En fait, c'est même obligatoire pour les sorties, pour mieux organiser les choses.
C'est limité, voilà, bien sûr.
Oui, alors tout est sur le site. Hein. Je renvoie nos auditeurs au site festival-oiseau-nature.com. Comment se passe la cohabitation avec ces oiseaux qui voient défiler des humanoïdes pendant 9 jours, là, au printemps parce que, voilà, comment se passe cette cohabitation?
Je dirais que l'idée de le faire avec des guides et d'avoir justement des groupes constitués, c'est vraiment aussi une manière de bien maîtriser la cohabitation. Et en même temps, puisqu'on a un guide, c'est aussi de donner le bon message éthique de respect. On va pas déranger les oiseaux au nid. Oui. Si on fait des sorties et que l'idée c'est d'aller voir les phoques en baie de Somme, c'est aussi de dire qu'il y a une distance à respecter qui est 300 mètres. Et c'est au travers d'une expérience que l'on propose en baie de Somme, c'est aussi de donner les bonnes clés de découverte de la nature et de bons comportements à avoir dans la nature. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe où.
Bien sûr, et il faut rappeler que ce sont des vraies sorties familiales aussi. Hein. Ça concerne aussi les enfants, il y a plein de choses pour eux.
Ça concerne aussi les enfants, on organise aussi des choses pour eux, effectivement.
Comme quoi?
Ça va être, par exemple, une construction d'hôtels à insectes ou de mangeoires ou de nichoirs. Et donc, par exemple, sur les nichoirs, on va apprendre que le petit trou que l'on va faire, que l'on va faire dans le nichoir pour accueillir l'oiseau, il y a un diamètre à respecter. Pour tel diamètre, ce sera plutôt les mésanges ou les rouges-gorges que l'on va accueillir. On va aussi apprendre à positionner le nichoir au bon endroit. On a un autre atelier qui s'appelle « Petit secouriste de la nature » dans le cadre des oisillons. Et là, on va apprendre à... les enfants sauront quoi faire s'ils trouvent un oiseau blessé.
C'est une bonne idée, ça, oui.
Et de dire, on va appeler telle ou telle structure et on saura quoi faire et pas forcément tout de suite donner à manger ou donner à boire.
Oui, je vois, il y a plein d'ateliers en plus pour tous les âges. Il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Donc en fonction de l'âge de son enfant, c'est vrai que l'inscrire à l'atelier qui lui convient, c'est parfait.
Oui, on a aussi des sorties qui leur sont dédiées, des sorties nature où, par exemple, on va aller en vallée de la Brelle et là, on va identifier les petits invertébrés qu'il peut y avoir dans la rivière. On va aussi apprendre que dans cette rivière, il y a des saumons qui remontent et les gens sont toujours étonnés de savoir qu'il peut y avoir des saumons.
Non, mais il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Tout est sur le site festival-oiseau-nature.com et c'est aussi aussi le paradis pour les photographes, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à immortaliser. Merci beaucoup.
Tout à fait. Et ce matin, je veux juste annoncer, c'est les rencontres de la photo nature en Baie-de-Somme, à Cailleux, et c'est ouvert dès ce matin 10h. Donc voilà, on aura plaisir à accueillir les festivaliers ce matin.
Merci
pour
beaucoup.
Pour 25 expos photos.
Merci beaucoup Marie-Agnès Bosch, coordinatrice de ce festival à Abbeville. Merci beaucoup et bon week-end.
Bon festival.
Merci, bon week-end, au revoir.
Merci, à bientôt.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Et après les oiseaux, on va s'intéresser aux animaux à poil. Les secrets de nos amis les bêtes, comme tous les vendredis avec vous, Yolaine Delavigne, bonjour.
Bonjour Jérôme.
C'est l'année des castors.
Oui, qui sont des ingénieurs hydrologues incroyables qui peuvent nous aider beaucoup.
Et bonjour Christophe Bourrou.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Il fallait y penser, les conseils auto du vendredi ce matin.
Vous connaissez le coup de la panne ? Eh bien, attention, maintenant voici l'arnaque à la dépanneuse. De plus en plus d'automobilistes en sont victimes.
Restez avec nous sur RTL, il est 5h49.
Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. Ça s'est passé sur RTL.
Christelle, êtes-vous surendettée ?
Oui, j'ai 47 000 euros de dette. Je vais être expulsée de ma maison. J'attends la décision du juge pour savoir quand.
Lucien, bonjour, mon cher Lucien.
Bonjour. Le cas de Christelle ne peut qu'émouvoir et je me proposais tout simplement de l'aider en reprenant sa dette sur sa maison.
C'est formidable d'entendre ça. J'imagine qu'elle est émue, Christelle.
Je ne sais pas quoi dire. C'est merveilleux. Parce que je suis très, très émue.
Merci à tous pour votre générosité.
Vous allez vous en sortir, Christelle. Croyez-en, la solidarité d'RTL.
Et oui, c'est ça, le vivre ensemble sur RTL. Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer. RTL, pas folle la bête.
Avec vous, comme tous les vendredis, Yolaine Delavigne. Alors, le 7 avril, paraît-il, a démarré l'année du castor. Une opération lancée par le SNPN, qui est la Société Nationale de Protection de la Nature.
Oui, alors avec différentes associations, la SNPN a en effet lancé cette année du castor, avec expos, colloques, etc., pour fêter les 50 ans de sa réintroduction, parce que ces adorables castors, ils sont trop mignons, étaient très présents en France, jusqu'à leur extinction à force de chasser leur fourrure, parce qu'ils ont une très belle fourrure. Aujourd'hui, ils sont de retour, grâce à des opérations de réintroduction. On compte à peu près 20 000 individus, principalement dans les bassins du Rhône et de la Loire. Et c'est une bonne nouvelle parce que ce sont des animaux très utiles.
Ah, très utiles et en quoi là ?
Alors en fait, ce sont de formidables ingénieurs hydrologues qui ont 8 millions d'années d'expérience. En fabriquant leurs barrages, les castors retiennent des millions de litres d'eau et réduisent les inondations et l'érosion. Ils font augmenter le niveau des cours d'eau et alimentent les fameuses nappes de surface qui se vident. Ils créent un courant, donc comme ça ils creusent la profondeur des rivières, donc l'eau devient plus froide, ce qui est très important avec le réchauffement climatique. D'ailleurs, les saumons et les truites leur disent merci. Et comme les castors humidifient la terre, ça permet d'entretenir les fameuses zones humides qui disparaissent et d'éviter les incendies. Voyez-t-on tout ça grâce à un tout petit animal qui ressemble à une peluche. Certains trouvent même qu'il serait plus efficace que les méga-bassines.
Oh, comparer le petit castor, tout petit castor aux énormes méga-bassines, faut oser.
Oui, ça fait pas peur à l'historien Rémi Luglia, qui est président justement de la SNPN et qui est auteur du livre qui vient de sortir « Vivre en castor » aux éditions Quay. Et c'est vrai que ces énormes réservoirs de béton qui stockent l'eau posent de gros problèmes environnementaux, alors que le castor, il aide le vivant, au point que la Californie, qui les a éradiqués aussi comme nuisibles, vient de débourser plusieurs millions de dollars pour les réintroduire, pour lutter justement contre les incendies qui ravagent leur région chaque été. Alors c'est fou parce que il y a des satellites qui les observent pour mieux comprendre leur mode de vie, et on a créé un algorithme pour eux qui doit détecter leur présence. C'est un dispositif qui s'appelle Eager, qui a déjà stocké 13 000 images de barrages de castors pour les suivre à la trace. Et l'objectif, c'est de comprendre comment les attirer pour les amener à s'installer dans certaines zones fragiles, régulièrement en proie et aux incendies, aux inondations.
Ah ouais, c'est fascinant. Bon, les castors sont très très utiles, on l'a bien compris. Alors, vous disiez aussi que ce sont d'adorables peluches.
D'abord, c'est tellement joli, c'est tellement
c'est
mignon.
Tout mignon.
Ah là là. Et ce sont de bons pères de famille. Ils vivent en couple avec leurs petits, sont des gros bosseurs. Ils aménagent et ils améliorent améliore sans cesse leur habitat avec galeries bien confortables, tapissées de copeaux de bois, grand nombre de sorties pour pouvoir fuir en cas de danger, multiples piscines pour se baigner. En fait, c'est des petits palaces et le castor, avec l'aide de ses enfants, entretient, nettoie, répare, agrandit pour que sa famille vive heureuse. Oui, elle est vraiment mignonne, cette peluche.
On veut tous faire partie de la famille Castor. Merci beaucoup, Yolène. À vendredi.
RTL, il fallait y penser.
Avec vous donc Christophe Bourreau, alors que vous serez nombreux sur la route entre les retours de vacances et les ponts du mois de mai, les autorités et les gendarmes alertent sur de nombreuses arnaques dont sont victimes les automobilistes, comme celle de la dépanneuse.
Imaginez, vous tombez en panne et là, miracle, en peu de temps, une dépanneuse arrive. D'abord, vous n'y voyez que du feu et vous êtes même soulagé d'être secouru aussi vite. Seulement, voilà, il s'agit de dépanneurs peu scrupuleux. Hélas, vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, mais bien trop tard, au moment de payer l'addition.
Alors comment ces escrocs dépanneurs arrivent-ils à savoir que vous êtes en panne ou au bord de la route ?
Eh bien, lorsque vous tombez en panne, vous appelez votre assureur, les forces de l'ordre, ou bien le service d'assistance de l'autoroute, mais entre-temps, votre panne est signalée par d'autres automobilistes via Waze, cette application de navigation que regardent les escrocs qui se positionnent à des endroits stratégiques. Dès qu'ils repèrent une panne, il leur suffit d'intervenir avant les entreprises officielles et le tour est joué.
Et au final, on peut se retrouver avec des additions salées.
Exemple, un dépannage coûte normalement entre 140 et 150 euros. Là, avec les escrocs, les factures peuvent s'envoler et être multipliées par 3, 4, voire bien plus, selon Mobilience, qui représente les professionnels, comme cet automobiliste qui s'est retrouvé à devoir payer son dépannage près de 3000 euros.
Oh là là. Et quels sont vos conseils, donc, Christophe, pour éviter de tomber dans le panneau ?
Il faut être vigilant car en vous voyant en détresse, certaines entreprises malveillantes rusent, expliquant que celui qui devait venir vous dépanner a du retard ou un empêchement. Or, si c'est le cas, votre assureur vous le signale. Donc, conseil, lorsque vous contactez votre assureur, demandez bien le nom de l'entreprise de dépannage qui a été officiellement mandatée. Donc, notez bien tous ces éléments qui vous éviteront de vous faire arnaquer.
Merci beaucoup. Conseil précieux signé, comme tous les vendredis, Christophe Bourreau.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Philippe Cavrivière en direct tous les matins. Il était hier face à Bernard Sablonnière. Alors Bernard Sablonnière, c'est un professeur émérite de biologie moléculaire à la faculté de Lille.
Bernard Sablonnière, c'est vraiment un nom de professeur de biologie moléculaire. Ah oui. Et je pense pas que le destin professionnel est souvent inscrit dans le patronyme. Bernard Sablonnière, même si son bouquin s'appelle « L'espoir d'une vie longue et bonne », Bernard Sablonnière, ça peut pas être un nom d'acteur porno.
Oh non ! Non, professeur, excusez-nous. Enfin.
Infirmière en chaleur avec Diana Vegas, Rebecca Tits et Bernard Sablonnière. Eh bien, non, ça ne marche pas, ça ne claque pas, ça ne sonne pas. Et d'ailleurs, j'observe que vous avez totalement omis Amandine et Bernard de parler de la sexualité des supercentenaires, qui est assez calme, mais pleine d'avantages. Si Simone, 112 ans, te dit « Merde, j'ai oublié de prendre ma pilule !» Alex Vizorek lui répondra « Te fais pas de bile, mon poussin, j'ai une semence de mauvaise qualité, car il est gentleman, il prendra sur lui. » Alors, je le redis, les supercentenaires, ce sont des personnes ayant dépassé les 110 ans. C'est pas des centenaires avec une tunique bleue et un slip rouge au-dessus du pantalon. Déjà parce qu'à 110 ans, c'est le seul moyen de garder un slip propre, c'est de le mettre au-dessus. Et puis, supercentenaire, c'est un pitch trop fragile pour faire un Marvel. Dans Gotham City, il y aurait des gens qui disent « Oh, putain, il pleut. C'est encore Louis Bonin qui s'est gouré sur la météo. Ouais. Non, regarde, c'est Super Centenaire qui vole au-dessus de nous et qui a une fuite urinaire. Coucou, Super Centenaire !»
Philippe Cavrivière que vous retrouvez en direct tous les matins à 8h, juste avant 8h. Marina, sais plus comment...
Mais c'est bien comme lancement. Non, c'est un bon teasing. Voilà, à tout à l'heure
là-dessus.
Pour plus de...
Restons là-dessus alors.
Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble.
Pourquoi se dépêcher d'aller fêter les 55 ans de Castorama ? Parce que quand on a l'esprit Castor, on veut saisir toutes les bonnes occasions et tous les petits prix. Mais surtout parce que l'anniversaire Castorama se termine bientôt avec des offres jamais vues. Et grâce à votre carte de fidélité, vous pouvez encore participer à notre grand jeu anniversaire. Il y a 100 000 euros de cartes cadeaux et un voyage de 3 000 euros à gagner. Mais vite, l'anniversaire Castorama, c'est seulement jusqu'au 6 mai. Castorama, changer nous fait avancer. Voir conditions en magasin et sur castorama.fr.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou, c'est tout propre ça. Va falloir éviter les moustiques, hein.
Mais pour ça, vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes, moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
RTL Matin.
Marina, on garde le parapluie à portée de main.
Oui, parce qu'à un moment ou l'autre de la journée, il va servir. Pour l'instant, on a des averses, surtout de la Bretagne à la Manche jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, mais aussi de l'Alsace à la Franche-Comté en allant vers le Rhône et puis sur l'Occitanie. Pour les autres, c'est un peu plus calme. Mais c'est un régime d'averses qui va concerner tout le pays. Donc à un moment ou l'autre de la journée, il y aura des averses qui parfois tourneront à l'orage. Ce sera vraiment bien perturbé. Pour les exceptions, il y a la Corse où ce sera très ensoleillé ce matin. Quelques nuages cet après-midi, mais bon, pas désagréable non plus. Pour les départements pyrénéens, vous aurez du soleil ce matin, mais alors ça va se dégrader cet après-midi avec des nuages, des averses et de la neige en montagne. Neige à partir de 1800 mètres cet après-midi sur les Pyrénées. Pour les Alpes, c'est dès ce matin. Et il y en aura aussi cet après-midi des averses de neige aussi sur le Massif central ce matin. Bref, c'est perturbé avec des températures alors qui sont en hausse.